Chapitre 29. L'Yggdrasil poursuivit sa route. L'arbre de la douleur, comme l'appelait son capitaine, la voix authentique de l'arbre, le templier Etmastine. J'étais dans l'impossibilité de discuter. Chaque saut tirait plus d'énergie de mon aîné, de mon amour, de ma pauvre aînée Silas, et chaque séparation remplissait la mare d'énergie, en train de s'épuiser, d'une réserve croissante de tristesse. Et pendant tout ce temps, le Gritch restait seul et inutile sur sa plateforme élevée, comme un beau pré hideux sur un navire condamné ou un ange macabre au sommet d'un arbre de Noël dépourvu de gaieté. Après avoir laissé le colonel Cassad sur Mars, le vaisseau-arbre sauta pour se mettre en orbite autour d'Alliance Maui. La planète était en rébellion, mais située dans l'espace de la Pax, et je m'attendais à ce que des hordes de vaisseaux de guerre surgissent pour nous affronter. Pourtant, il n'y eut aucune attaque pendant les quelques heures que nous y passâmes.
C'est l'un des bénéfices de l'assaut que l'armada est en train de mener contre la biosphère de l'arbre étoile,
dit Aîné avec une triste ironie.
Ils ont dépouillé les systèmes intérieurs de leur flotte de guerre.
C'est Eo qu'Aîné prit par la main afin de descendre sur Alliance Maui. De nouveau, j'accompagnais mon ami. Je clignais des yeux dans la lumière blanche. Nous étions sur une île mobile, dont les arbres voiles se gonflaient du vent chaud des tropiques. Le ciel et la mer étaient d'un bleu saisissant. D'autres îles marchaient de pair avec elles, tandis que notre escorte de dauphins laissait des sillages blancs de chaque côté du convoi. Il y avait des gens sur la haute plateforme, et bien que notre apparition les laissa perplexes, elle ne les alarma pas. Théo serra dans ses bras le grand blond et son épouse brune qui s'avancèrent pour nous accueillir.
« Aîné, Rol, dit Théo, je suis heureuse de vous présenter Mérine et Deneb Aspic Koro. »«
Mérine ? » m'exclamai-je tout en éprouvant la force de la poignée de main de cet homme. Il sourit.
« 10 générations sont passées depuis ce Mérine Aspic-là, dit-il, mais je suis son descendant direct, comme Deneb est celle de notre célèbre dame Siri. »
Il posa la main sur l'épaule d'Aîné.
Vous êtes revenu, comme vous nous l'aviez promis. Et vous avez ramené notre plus féroce guerrière avec vous.
Oui, et vous devrez la garder saine et sauve. Pendant les jours et les mois à venir, il faut que vous cessiez tout contact avec la Pax.
Deneb Aspic Koro rit. Je remarquais sans une trace de désir qu'elle pouvait être la plus saine, la plus belle femme que j'ai jamais vue.
Pour le moment, nous sommes obligés de fuir pour survivre. Trois fois, nous avons tenté de détruire la plateforme pétrolière des Trois Courants, et trois fois, ils nous ont massacrés comme des faucons Thomas. Maintenant, profitant de la migration de l'île, nous tentons de rejoindre l'archipel équatorial pour nous y cacher, et à la longue, nous regrouper à la base submersible de l'Adzero. Protégez-la à tout prix,
répéta Aîné. Elle se tourna vers Théo.
Tu vas me manquer, mon ami.
Théo Bernard tenta visiblement de ne pas pleurer, échoua, et étreignit Aîné avec violence.
« Pendant tout ce temps, ça a été bon, » dit-elle en reculant. « Je prie pour que tu réussisses. Et je prie pour que tu échoues, pour ton propre bien. »
Aîné fit non de la tête.
« Prie pour que nous réussissions tous. »
Elle leva la main en signe d'adieu et redescendit avec moi sur la plateforme basse. Je sentais l'odeur de sel et de poisson grisante de la mer. Le soleil était si éblouissant qu'il m'obligeait à plisser les yeux, mais la température de l'air me semblait parfaite. L'eau, sur la peau des dauphins, était aussi visible que la sueur sur mes avant-bras. Je serais bien resté là à jamais.
« Il faut partir, » dit Aîné.
Elle me prit par la main. Un vaisseau torche apparut sur le radar juste au moment où nous sortions du puits gravitationnel d'Alliance Maui, mais nous l'ignorâmes tandis qu'Aîné restait seul sur la plateforme de la passerelle à regarder les étoiles. J'allais l'y rejoindre.
« Peux-tu les entendre ? »
fit-elle à voix basse.
« Les étoiles ? Les mondes ? Les gens qui sont dessus ? Leurs secrets et leur silence ? Tant de battements de cœur ?
Non. Quand je ne me concentre pas sur quelque chose d'autre, dis-je, je suis toujours hanté par des voix et des images venues d'ailleurs. D'autres temps. Mon père chassant dans les landes avec ses frères. le père Glaucus assassiné par Radamante Némès. Elle me regarda.
« Tu as vu cela ?»«
Oui. C'était horrible. Il ne pouvait pas voir qui l'attaquait. La chute, les ténèbres, le froid, la douleur avant qu'il meure. Il avait refusé d'accepter le cruciforme. C'était pour cela que l'Église l'avait envoyé sur Sol Draconis Septem. L'avait exilé dans la glace.
Oui. J'ai touché ces derniers souvenirs de nombreuses fois depuis ces 10 dernières années. Mais il y a d'autres souvenirs du père Glaucus, Roll. De beaux souvenirs chauds, remplis de lumière. J'espère que tu les trouveras.
Je voudrais juste que les voix se taisent, dis-je avec sincérité. Ça, j'englobai d'un geste le vaisseau arbre, les gens que nous connaissions, Etmastine à ses commandes. C'est trop important. Aîné sourit.
Tout est trop important.
C'est un sacré problème, hein? Elle se retourna vers les étoiles.
Non, Roll, ce que tu dois entendre avant de faire un pas, ce n'est pas la résonance du langage des morts, ni même des vivants. C'est l'essence des choses.
J'hésitais, ne voulant pas paraître ridicule, mais dis tout de même. Alors, l'océan doit descendre et remonter 1 million de fois, et lui, être opprimé. Pourtant, il ne faut pas qu'il meure, avant que ces choses soient accomplies. S'il scrute, Aîné m'interrompit.
La magie jusqu'en ses profondeurs, et expose la signification des mouvements, des formes et des sons, s'il explore toutes les formes et les substances, en remontant jusqu'à leur symbole essence, il ne faut pas qu'il meure.
Elle sourit de nouveau.
Je me demande comment va oncle Martin. A-t-il passé toutes ces années en sommeil froid? Se répand-il en injures contre ces pauvres domestiques androïdes? Travaille-t-il toujours à ses cantos inachevés? Dans mes rêves, je ne peux jamais voir oncle Martin.
Il est mourant, dis-je. Sous le choc, Aîné cligna des yeux. J'ai rêvé de lui. Je l'ai vu, ce matin. Il s'est décongelé pour la dernière fois, il l'a dit à ses fidèles serviteurs. Les machines le maintiennent en vie. Les traitements Poulsen n'ont plus aucun effet. Il va... Je m'arrêtai.
Dis-moi.
Il va rester vivant jusqu'à ce qu'il te revoie. Mais il est très fragile. Aînée détourna les yeux.
C'est étrange, dit-elle. Ma mère s'est constamment disputée avec oncle Martin pendant tout le pèlerinage. Parfois, il semblait sur le point de s'entretuer. Avant qu'elle meure, il était devenu son ami le plus intime. Maintenant,
elle se tut, la voix voilée. Il faudra juste que tu restes vivante, ma grande, dis-je sans reconnaître ma voix. Restez vivante, restez en bonne santé, et retournez voir le vieil homme.
Tu lui dois bien cela. Prends ma main, Roll.
Le vaisseau se distranslata dans la lumière. En orbite autour de Tau Ceti Central, nous fûmes immédiatement attaqués, non seulement par les vaisseaux de la Pax, mais par des vaisseaux torches rebelles combattant pour la sécession planétaire entamée par l'ambitieuse archevêquesse Achilla Silvaski. Le champ de confinement brilla comme une nova.
« Tu ne peux sûrement pas te translater à travers ça ?»
dis-je à Aîné quand elle offrit ses mains à Tromo Trochi de Domu et à moi.
« Il n'est pas nécessaire de se translater à travers quelque chose. »
répliqua mon amie. Elle s'empara de nos mains et nous nous retrouvâmes à la surface de l'ex-capitale de la défunte et non regrettée hégémonie. Le Tromo Trochi n'était jamais venu sur Tessécaré. En fait, il n'avait jamais quitté le monde de Tien Shan, mais son intérêt de négociant avait été excité par les histoires qui couraient sur cette capitale capitaliste de l'univers humain.
« Quel dommage que je n'ai rien à vendre !»
dit l'habile commerçant.
En 6 mois passés sur une planète aussi féconde, j'édifierais un empire commercial.
Rachel fouilla dans le sac à dos qu'elle avait emporté et en sortit un gros lingot d'or.
Cela devrait vous permettre de démarrer. Mais souvenez-vous de vos vrais devoirs.
Le petit homme s'inclina, le lingot à la main.
« Je n'oublierai jamais, ô vous qui enseignez. Je n'ai pas subi l'apprentissage du langage des morts pour rien. Contentez-vous de rester sain et sauf pendant quelques mois, »
dit Aînée.
« Puis, j'en suis certaine, vous pourrez vous offrir le voyage jusqu'au monde que vous aurez choisi.
Je viendrai à l'endroit où vous serez, achaîné, »
dit le négociant avec la seule émotion que je lui ai jamais vue montrer.
« Et je dépenserai toutes les richesses passées, futures et imaginaires pour le faire. »
Je plissai les yeux en entendant cela. Pour la première fois, il me vint à l'idée que beaucoup des disciples d'aînés étaient peut-être, probablement, un peu amoureux d'elle tout en la craignant et en la respectant. Entendre ces paroles d'un marchand obsédé par l'argent fut pour moi un choc. Aînée lui toucha le bras.
« Soyez prudent et bonne chance. »
L'Yggdrasil était soumis à une attaque lorsque nous revînmes. Il l'était encore lorsqu'Aînée nous translata hors du système de Tossetti. La planète citée de Lusus ressemblait beaucoup à l'image que j'avais gardée de mon bref séjour sur ce monde. Une série de tours du rucher perchées sur des canyons verticaux de métal gris. C'est là que Georges Tsarong et Jigmé Norbu nous quittèrent. Georges, trapu, lourdement musclé, qui pleurait en étreignant Aîné, pouvait passer, dans une faible lumière, pour un Lusien, alors que le squelettique Jigmé ressortirait dans les foules du rucher. Heureusement, Lusus avait l'habitude des gens des autres mondes et nos deux contremaîtres s'en tireraient tant qu'ils auraient de l'argent. Mais cette planète était l'un des rares mondes de la Pax à utiliser de nouveau les cartes universelles de crédit, et Aîné n'en avait pas dans son sac à dos. Quelques minutes après que nous fûmes sortis des couloirs vides du rucher de Dreg, sept silhouettes en cape cramoisie s'approchèrent. Je m'interposai entre Aînée et ses personnages menaçants, mais au lieu de passer à l'attaque, ils s'agenouillèrent sur le sol gras, courbèrent la tête et chantèrent. Béni soit-elle, béni soit la source de notre salut, béni soit l'instrument de notre expiation, béni soit le fruit de notre réconciliation, béni soit-elle.
« Le culte du Gritch, » dis-je stupidement.
« Je croyais qu'il avait disparu,
que ses fidèles avaient été liquidés pendant la chute. »
« Nous préférons être appelés l'église de l'expiation finale, »
dit le premier homme en se relevant, mais toujours incliné devant Aîné.
« Et non, nous n'avons pas été liquidés, comme vous dites, simplement réduits à la clandestinité. Soyez la bienvenue, fille de la lumière. » « Épouse de l'Avatar. »
Aînée secoua la tête avec une impatience visible.
« Je ne suis l'épouse de personne, évêque d'Uruyen. Voici deux hommes que j'ai amenés pour les confier à votre protection pendant 10 mois. »
L'évêque en rouge inclina sa tête chauve.
« Juste comme vos prophéties le disaient, fille de la lumière. »
« Pas de prophéties, » répliqua Aînée. « Des promesses. »
Elle se retourna et serra une dernière fois Georges et Jigmé dans ses bras.
« Est-ce que nous nous reverrons, architecte ?»
demanda Jigmé.
« Je ne peux pas vous l'assurer. Mais je vous promets que si je le peux, nous reprendrons contact. »
Je la suivis dans les corridors trempés du rucher de Dreg, jusqu'à la grande salle vide où notre départ ne semblerait pas assez miraculeux pour s'ajouter au canon déjà fertile du culte du Gritch. Sur Tsingtao Sichuangpana, nous dîmes adieu au Dalai Lama et à son frère, l'Absang Samten. Ce dernier pleura, mais pas le petit lama.
« Le dialecte mandarin de ces gens est atroce, »
dit-il.
« Mais ils vous comprendront, votre sainteté, et vous écouteront. Vous êtes mon maître !»
dit le petit garçon d'une voix presque coléreuse.
« Comment vais-je pouvoir leur enseigner quelque chose sans votre aide ?»« Je vous aiderai. » J'essaierai de vous aider. Et puis, c'est votre tâche. Et la leur.
Mais pourrons-nous partager la communion avec eux ?
Demanda l'Absang.
S'ils la réclament.
S'adressant au petit garçon, elle dit :
Votre sainteté, m'accorderez-vous votre bénédiction ?
L'enfant sourit.
C'est moi qui devrais demander la vôtre, maître. Je vous en prie.
Dit Aînée, et je perçus de nouveau sa lassitude. Le Dalai Lama s'inclina et, les yeux fermés, énonça.
« C'est la prière de Khuntu Sangpo, telle qu'elle m'a été révélée par la vision de mon terton, dans une vie antérieure. Oh, le monde des phénomènes et toute existence, samsara et nirvana, tout a une seule fondation, mais il y a deux sentiers et deux résultats, des manifestations de l'ignorance et de la connaissance. Par l'aspiration de Kuntu Sangpo dans le palais de l'espace primordial du vide, que tous les êtres atteignent la consommation parfaite et la bouddhéité. La base universelle est inconditionnelle, s'élevant spontanément, vaste étendue immanente, au-delà de toute expression, où n'existe ni samsara ni nirvana. La connaissance de cette réalité est la bouddhéité, pendant que les êtres ignorants errent en samsara. Que tous les êtres sentients des trois royaumes parviennent à la connaissance de la nature de l'ineffable fondation.
Aîné s'inclina devant le petit garçon.
Le palais de l'espace primordial du vide,
murmura-t-elle.
Comme c'est plus élégant que ma description maladroite du vide qui lit. Merci, votre sainteté.
L'enfant s'inclina.
Merci à vous, révéré maître. Puisse votre mort être plus rapide et moins douloureuse que nous ne l'escomptons tous deux.
Aîné et moi, nous retournâmes au vaisseau arbre. Qu'a-t-il voulu dire ? Demandai-je les deux mains sur ses épaules. Une mort plus rapide et moins douloureuse ? Merde, qu'est-ce que ça veut dire ? As-tu projeté d'être crucifié ? Est-ce que cette satanée imitation de Messie doit aller jusqu'à la même fin bizarre ? Dis-le-moi, aîné ! Je me rendis compte que j'étais en train de la secouer. De secouer ma chère amie, ma bien-aimée. Je la lâchai. Aîné me prit dans ses bras.
Contente-toi de rester avec moi, Rol. Reste avec moi aussi longtemps que tu le pourras.
Je le ferai, promis-je en lui tapotant le dos. Je te jure que je le ferai.
Sur Fuji, nous avons dit adieu à Kenshiro Endo et Haruyuki Otaki. Ce fut un enfant que je ne connaissais pas, une petite fille de 10 ans appelée Catherine, qui demeura seule sur Deneb Drey et apparemment, cela ne lui faisait pas peur. Le triste et maussade monteur d'échafaudage, Rimsi Kipoup, se porta volontaire presque joyeusement pour rester sur sol Draconis Septem, ce monde d'air gelé et de spectres meurtriers où le père Glaucus et nos amis Chichatuk avaient été ignoblement assassinés. Sur Nevermore, nous laissâmes un autre homme que je n'avais pas eu le privilège de rencontrer, un gentleman âgé à la voix douce qui semblait être un frère de Martin Silenus, en plus jeune et plus gentil. Les deux lieutenants de Hetmastin descendirent avec Aîné et moi sur le bosquet de Dieu, où Abétic avait perdu une partie de son bras 10 ans auparavant, et n'en revinrent pas. Les sénéchés à l'huit en pâte, Liyun et Owiol, furent translatés sur Hébron, vide de ses habitants juifs, mais remplis maintenant de bons colons chrétiens envoyés là par la Pax, et nous dirent adieu dans le désert, un soir où les rochers retenaient encore la lueur du jour. Sur Parvati, les sœurs habituellement joyeuses, Kukuse et Kaise, nous étreignirent tous deux en pleurant. Une famille, composée des parents et de 5 enfants aux cheveux dorés, resta sur Asquith. Au-dessus de l'océan bleu et du tourbillon nuageux blanc de Mare Infinitus, monde dont le simple nom m'évoquait des souvenirs d'amitié et de souffrance, Aîné demanda au sergent Grégorius s'il voulait bien s'y translater avec elle pour rejoindre les rebelles et soutenir sa cause.
« Et laissez le capitaine ?»
demanda le géant, que cette proposition semblait scandaliser. De Soya s'avança.
« Il n'y a plus de capitaine, sergent. Mon cher ami, seulement un prêtre sans église. Et je pense que nous pourrions faire plus de bien en nous séparant qu'en restant ensemble. Ai-je raison, Achaîné ? »
Mon ami hocha la tête.
J'avais espéré que l'Homo serait mon porte-parole sur Mare Infinitus. Les contrebandiers, les rebelles et les chasseurs de gueules de lampe de ce monde respecteront un homme fort. Mais ce sera difficile et dangereux. La rébellion s'y déchaîne toujours, et la Pax ne fait pas de prisonniers.
« Ce n'est pas le danger qui m'arrête !»
cria Grégorius.
« Je suis prêt à mourir 100 fois de la vraie mort pour une bonne cause. »«
Je le sais, sergent, »
dit Aîné. Le géant regarda son ex-capitaine, puis aîné.
« Jeune fille, vous n'aimez pas dire l'avenir, même si, comme nous le savons, vous pouvez l'épier de temps à autre. Mais dites-moi, y a-t-il une chance que je revoie mon capitaine ?»«
Oui. Et même des personnes que vous croyez mortes, comme le caporal qui ?»«
Alors j'y vais. Je ferai ce que vous voulez. Je n'appartiens peut-être plus au corps helvétique, mais l'obéissance qu'on m'a inculquée est toujours ancrée en moi. »
« Ce n'est pas de l'obéissance que nous vous demandons maintenant, » dit le père de Soya. « C'est quelque chose de plus difficile et de plus profond. »
Le sergent Grégorius réfléchit un moment.
« Oui, » dit-il enfin, après avoir un moment tourné le dos à tout le monde. « Allons-y, jeune fille. »
Et il tendit la main à Aîné. Nous le laissâmes sur une plateforme abandonnée, quelque part dans le littoral sud, mais Aîné lui dit que des submersibles passeraient le lendemain. Au-dessus de Madre de Dios, le père de Soya s'avança, mais Aîné leva la main pour l'arrêter.
« Cette planète est sûrement pour moi, » fit le prêtre. « Je suis né ici. Mon diocèse était là. J'imagine que j'y mourrai. »
« Peut-être, » dit Aîné. « Mais j'ai besoin de vous pour un endroit bien plus difficile et une tâche plus dangereuse, Federico. »«
Où ?»
demanda le prêtre aux yeux tristes.
« Passem, notre dernière escale. »
Je m'avançais.
« Attends, ma grande, je t'accompagne sur Passem si tu insistes pour y aller. Tu as dit que je pouvais rester avec toi. »
Même à mes propres oreilles, ma voix paraissait lourde de récrimination et de désespoir.
« Oui, »
dit Aîné en me touchant le poignet de ses doigts froids.
Mais j'aimerais que le père de Soya vienne avec nous. »
Le jésuite parut perplexe et un peu désappointé, mais il inclina la tête. L'obéissance était apparemment encore plus inculquée dans la société de Jésus que dans le corps helvétique. Pour finir, le travailleur du bambou, Wojtek Majer, et sa nouvelle fiancée, la briqueteuse Vicky Grosselge de Tien Shan, se portèrent volontaires pour descendre sur Madre de Dios. Sur Friholm, nous dîmes adieu à Janus Kurtika. Le soldat Jigme Paring souhaita rejoindre la population rebelle de Castrop Roxel, terraformée et colonisée depuis peu par la Pax. Au-dessus de Parcimonie, alors que les vaisseaux de guerre de la Pax transformaient le champ de confinement en un torrent de lumière et de bruit, une femme appelée Hélène Dean O'Brien s'avança pour prendre Aîné par la main. Sur Espérance, Aîné et moi fîmes nos adieux à l'ex-major Jo Kung, Charles Chikyap Kempo. Sur Herbe, enfoncé jusqu'aux épaules dans la prairie planétaire jaune, nous saluâmes Isher Perpète, l'un des rebelles les plus hardis tiré un jour d'une galère prison de la Pax par le père de Soya. Nous nous translatâmes en plein cœur de la nuit sur Kom Riyad, où les mosquées avaient été rapidement rasées ou transformées en cathédrales par les nouveaux colons de la Pax, et fîmes nos adieux à l'ex-réfugié de ce monde appelé Merwin Mohamed Ali, et à notre ancien interprète sur Tien Shan, l'astucieux Perissam Dup. Sur Renaissance Mineure, alors qu'une horde de vaisseaux de guerre accélérait vers nous dans le système avec des intentions meurtrières, ce fut l'ex-prisonnier silencieux, Hogan Liebler, qui s'avança.
« J'ai été un espion, » dit l'homme pâle.
Il parlait à Aîné, mais regardait le père de Soya.
« J'ai vendu mon allégeance pour de l'argent, afin de pouvoir retourner sur ce monde, racheter les terres perdues de ma famille et refaire fortune. J'ai trahi mon capitaine et mon âme.
« Mon fils, » dit le père de Soya, « vos péchés sont depuis longtemps pardonnés, si péché il y avait. Pardonnés par votre capitaine et, chose plus importante, par Dieu. Vous n'avez causé aucun tort. »
Les voix que j'ai entendues depuis que j'ai bu le vin avec Aîné,
sa voix s'éteignit.
Je connais beaucoup de personnes sur ce monde,
reprit-il d'une voix plus forte.
Je souhaite retourner chez moi pour commencer cette nouvelle vie.
D'accord,
dit Aîné, et elle lui offrit sa main. Sur Vitus Grey Balianus B, Aîné, la Dorgée Famo et moi, nous nous translatâmes dans des terres désertiques, loin de la rivière, de ses champs cultivés, et de ces petites maisons peintes bordant la voie où les membres si gentils de l'hélice du spectre d'Amoyette m'avaient soigné et permis d'échapper à la pax. En ce lieu, il n'y avait qu'amas de gros rochers et fissures desséchées, labyrinthe formé par les entrées des tunnels dans la roche, et tempête de sable soufflant de l'ouest où le soleil couchant teintait de rouge sang l'horizon de nuages noirs. Ce paysage me rappela Mars avec un air plus chaud, plus dense, qui puait la cordite et la mort. Des silhouettes encapuchonnées nous entourèrent presque immédiatement, armées de fusils à fléchettes et de fouets de l'enfer. Je tentai une fois de plus de m'interposer entre Aîné et le danger, mais ceux qui nous encerclaient dans le vent rouge levèrent leurs armes.
« Attendez !»
cria une voix qui m'était familière. L'un des soldats descendit une dune rouge en glissant pour nous rejoindre.
« Attendez !»
redit-elle à ceux qui étaient avides de tirer, et cette fois, elle défit les bandes de son capuchon.
« Demloa !»
m'écriai-je, et je m'avançai pour serrer dans mes bras la petite femme en tenue militaire grossière. Je vis des larmes laisser des traces boueuses sur ses joues.
« Vous nous avez amené votre ami exceptionnel, »
dit la femme qui m'avait sauvé la vie.
« Juste comme vous l'aviez promis. »
Je la présentai à Aîné, puis à la Dorgée Famo. Je me sentais à la fois stupide et heureux. Demloa et Aîné se regardèrent un moment, puis s'étreignirent. J'examinais les autres silhouettes restées en arrière dans le crépuscule rougeâtre. « Où est Emreya ? » demandai-je. « Et Alem Mikael Demalem ? Et vos enfants, Bin et Sessambre ?»«
Morts, »
répondit Demloa.
« Ils sont tous morts, sauf Sessambre, qui a disparu depuis la dernière attaque de la Pax de Bombassino. »
Je restais muet, assommé.
Binria Demloa Alem a succombé à sa maladie,
poursuivit Demloa.
Mais les autres sont morts dans notre guerre avec la Pax.
La guerre avec la Pax, répétai-je. J'espère que ce n'est pas moi qui l'ai provoqué.
Non, Rolandimion, ce n'est pas vous. Ceux de l'hélice du spectre d'Amoyette qui faisaient grand cas de nos modes de vie refusait la croix, ce qui a tout déclenché. La rébellion avait déjà commencé quand vous étiez avec nous. Après votre départ, nous avons cru gagner. Les troupes poltronnes de la base de Bombassino ont sollicité la paix sans tenir compte des ordres de leurs commandants restés dans l'espace et ont conclu un traité avec nous. Mais d'autres vaisseaux de la Pax sont arrivés. Ils ont bombardé leur propre base, puis s'en sont pris à nos villages. Depuis, c'est la guerre. Quand ils atterrissent et essaient d'occuper la région, nous en tuons beaucoup. Ils en envoient d'autres.
Demloa, je suis vraiment, vraiment désolé, dis-je. Elle posa la main sur ma poitrine et hocha la tête. Je vis le sourire dont je me souvenais. Elle regarda de nouveau Aîné.
« Vous êtes celle dont il parlait dans son délire et dans ses souffrances. Vous êtes celle qu'il aimait. L'aimez-vous aussi, enfant ?»«
Oui, »
répondit Aîné.
« Bien, »
dit Demloa.
« Ce serait triste qu'un homme qui croyait mourir exprimât tant d'amour pour quelqu'un qui n'éprouverait pas les mêmes sentiments que lui. »
Demloa regarda l'allée du tonnerre, silencieuse et royale.
« Vous êtes une prêtresse ?»«
Pas une prêtresse, mais la supérieure d'un monastère, le Gompa de Samden. »«
Vous dirigez des moines ? Des hommes ?»
demanda Demloa en souriant.
« Je les instruis. »
Le vent ébouriffait les cheveux grillaciers de la Dorgée Famo.
« C'est aussi bien que de les diriger. »
Demloa rit.
« Bienvenue, Dorgée Famo. »
À Aîné, elle dit.
« Et allez-vous rester avec nous, enfant ? Ou bien juste nous toucher et passer votre chemin ? comme nos prophéties le prédisent. Je dois continuer. Mais j'aimerais laisser la Dorje Famo ici pour qu'elle soit votre alliée et notre liaison. C'est dangereux ici,
dit Demloa à la Dorje Famo. Celle-ci sourit à la femme plus petite. L'énergie qui émanait de ces deux êtres était presque palpable dans l'air qui nous entourait.
« Bon, »
dit Demloa, elle me serra dans ses bras.
« Soyez gentil avec votre aimée Rolandimion. Soyez bon avec elle dans les heures qui vous sont accordées par les cycles de la vie et du chaos. »
« Je le saurai. » Aénée, Demloa dit,
« Merci d'être venu, enfant. Nous le désirons. Nous l'espérions. »
Les deux femmes s'étreignirent de nouveau. Je me sentis soudain intimidé, comme si j'avais amené Aénée à la maison pour la présenter à ma mère ou à grand-dame. La Dorje Famo nous bénit.
« Kalepea, »
dit-elle à Aénée. Nous nous éloignâmes dans la tempête de sable du crépuscule et nous nous translatâmes dans un éclair de lumière blanche. « Que t'a-t-elle dit ?»«
Kalepea, »
répéta mon ami. C'est en ces termes qu'autrefois les Tibétains disaient adieu à une caravane qui s'apprêtait à gravir les hautes cimes.
« Cela signifie, pars lentement si tu souhaites revenir. »
Nous visitâmes ainsi une centaine d'autres mondes, n'y restant que quelques instants, mais chaque adieu était émouvant à sa manière. J'aurais du mal à dire combien de jours et de nuits s'écoulèrent durant ce dernier voyage avec Aénée, voyage qui ne fut que descente et remontée par translation. Le vaisseau-arbre pénétrait dans la lumière d'une planète et émergeait ailleurs, et quand tout le monde était trop fatigué pour continuer, l'Yggdrasil dérivait dans l'espace vide pendant quelques heures, afin que les ergues puissent se reposer et que ceux d'entre nous qui restaient encore tentent de dormir. Je me souviens au moins de trois de ces périodes de sommeil, alors peut-être avons-nous seulement voyagé pendant 3 jours et 3 nuits. Ou peut-être avons-nous voyagé pendant 1 semaine ou plus et seulement dormi 3 fois. Mais je me souviens qu'Aénée et moi avons peu dormi et fait l'amour tendrement, comme si chacune de nos étreintes était la dernière. Ce fut durant l'un de ces brefs moments où nous nous retrouvions seuls que je lui chuchotais.
Pourquoi faisons-nous cela, ma grande ?
Pas seulement afin de pouvoir tous devenir comme les extros et capter la lumière du soleil dans nos ailes.
Je veux dire, c'était beau.
Mais j'aime les planètes. J'aime la boue sous mes bottes.
Cela me plaît d'être seulement humain.
D'être un homme. Aénée gloussa et me caressa la joue. Je me souviens que la lumière était faible, mais que je pouvais voir la sueur perler encore entre ses seins.
« Cela me plaît aussi que tu sois un homme, Rol, mon amour. »«
Je veux dire, » commençai-je d'un air gêné.
« Je sais ce que tu veux dire, »
chuchota Aénée.
« Moi aussi j'aime les planètes. Et cela me plaît d'être humaine, juste une femme. Ce n'est pas pour une évolution utopique de l'humanité en ange extro ou en empat de sénéchet que je fais ce que je dois faire. »«
Pourquoi, alors ?»
murmurai-je dans ses cheveux.
« Juste pour offrir à tous l'occasion de choisir, »
dit-elle doucement.
« Juste pour que nous ayons la possibilité de continuer à être humains, quoi que cela puisse signifier pour chaque personne qui fait son choix. »
« Refaites votre choix. »
« Oui. Même si cela signifie choisir ce qu'on était avant. » Même si cela signifie choisir la Pax, le cruciforme et l'alliance avec le centre.
Je ne comprenais pas, mais à ce moment, tenir Aénée dans mes bras m'intéressait plus que de comprendre pleinement ce qu'elle disait. Après quelques minutes de silence, Aénée reprit.
Rol, moi aussi j'aime la terre sous mes bottes, le bruit du vent dans l'herbe. Tu veux bien faire quelque chose pour moi ?
« Tout ce que tu voudras, » répondis-je passionnément.
« Si je meurs avant toi, »
chuchota-t-elle,
« tu veux bien rapporter mes cendres sur l'ancienne terre
et les disperser là où nous avons été le plus heureux ensemble.
Si elle m'avait poignardé en plein cœur, cela ne m'aurait pas fait plus mal.
Tu as dit que je pouvais rester avec toi,
répliquai-je enfin, d'une voix voilée pleine de colère perdue.
Que je pourrais aller partout où tu irais. Et j'en ai l'intention, mon amour,
murmura Aîné.
Mais si je te précède dans la mort, feras-tu cela pour moi? Attendre quelques années, puis libérer mes cendres là où nous avons été le plus heureux sur l'ancienne terre.
J'avais envie de la serrer jusqu'à la faire crier, jusqu'à ce qu'elle renonce à sa requête. Je me contentais de murmurer.
Comment diable voudrais-tu que je retourne sur l'ancienne terre?
Elle est dans le petit nuage de Magellan, n'est-ce pas?
À 60 000 années-lumière d'ici? Oui.
Eh bien, ouvriras-tu encore les portails d'Istrance pour que je puisse y retourner?
Non. Ils sont fermés à jamais.
Alors comment diantre espères-tu que je... Je fermai les yeux.
Ne me demande pas de faire ça, aîné. C'est déjà fait, mon amour. Demande-moi plutôt de mourir avec toi. Non. Je te demande de vivre pour moi. De faire cela pour moi.
Merde!
Est-ce que cela veut dire oui, Roll?
Cela veut dire merde. Je déteste les martyrs. Je déteste la prédestination. Je déteste les histoires d'amour qui finissent mal.
Moi aussi,
balbutia Aîné.
Feras-tu cela pour moi?
J'émis un bruit grossier. Où as-tu été la plus heureuse sur l'ancienne terre? Demandai-je enfin. Tu dois faire allusion à Talisin West, parce que nous n'avons pas vu grand-chose d'autre de cette planète quand nous y étions.
Tu le sauras,
murmura Aîné.
Dormons.
Je n'ai pas envie de dormir, dis-je brutalement. Elle me prit dans ses bras. Dormir ensemble en impesanteur sur l'arbre étoile, cela m'avait paru délicieux. C'était encore plus délicieux de dormir tous les deux dans le petit lit de notre cabine, au sein du faible champ gravitationnel de l'Yggdrasil. Je ne pouvais plus concevoir de dormir sans elle à mes côtés.
Disperser tes cendres, hein ? Grommelai-je pour finir.
Oui,
murmura-t-elle plus endormie qu'éveillée.
Ma grande, ma chérie, mon amour, tu es une sale petite morbide.
Oui,
chuchota mon aîné.
Mais je suis ta sale petite morbide.
Un peu plus tard, nous finîmes par dormir. Le dernier jour, aîné nous translata jusqu'au système d'une naine rouge de classe M3 et son agréable planète de type Terre qui se balançait sur une orbite proche.
Non,
dit Rachel tandis que notre petit groupe se tenait sur la passerelle de Het Mastin. 300 d'entre nous étaient partis un par un, disciples d'aînés répartis sur les mondes de la Pax, comme autant de bouteilles jetées dans un grand océan, mais sans message. Maintenant, il ne restait plus que le père de Soya, Rachel, aîné, le capitaine Het Mastin, Abétik, quelques clones d'équipage, les Ergues, et moi. Et le Gritch, silencieux et immobile sur sa haute plateforme.
Non,
répéta Rachel.
J'ai changé d'avis. Je veux y aller avec toi.
Aînée resta les bras croisés. Elle s'était montrée particulièrement silencieuse pendant cette longue matinée de translation et d'adieu aux disciples.
Comme tu veux,
dit-elle doucement.
Tu sais que je n'exigerai jamais rien de toi, Rachel. Va te faire foutre,
dit doucement Rachel.
Oui,
répondit Aînée. Rachel serra les poings.
Merde! Ça ne finira donc jamais. Que veux-tu dire?
Demanda Aîné.
Tu le sais très bien. Mon père, ma mère, ta mère, ils n'ont fait que ça. Ma vie, vécue deux fois maintenant, s'est toujours passée à combattre cet ennemi invisible. Fuir, fuir et attendre, attendre. Être baladé dans le temps comme un toton maudit dont on aurait perdu le contrôle. Oh merde !
Aîné attendit.
Une unique roquette,
dit Rachel. Puis elle me regarda.
Ne vous vexez pas, Roll. Je vous aime bien maintenant. Mais Aîné pourrait-elle m'accompagner seule sur le monde de Barnard ?
Je regardai Aîné. Moi, je suis d'accord, dis-je. Rachel poussa un soupir.
Retourner sur cette planète arriérée, ces champs de maïs, ces couchers de soleil, et ces minuscules villes aux vastes maisons blanches avec de grands porches larges. Je m'y ennuyais déjà à mourir quand j'avais 8 ans.
Tu aimais cela quand tu avais 8 ans, dit Aîné.
Oui, c'est vrai.
Elle serra la main du prêtre, celle d'Etmastine, puis la mienne. Une lubie me prit, en me souvenant de vers obscurs des cantos du vieux poète, en me rappelant d'en avoir ri à la limite de la lumière des feux de camp, lorsque grande dame me les faisait répéter vers par vers. Aussi dis-je à Rachel, « Salut, poilu !» La jeune femme me regarda étrangement. Ses yeux verts captaient la lumière du monde suspendu au-dessus de nous.
« À plus tard, tête de l'art !»
Elle prit la main d'Aîné et elles disparurent. Pas d'éclair de lumière quand on ne se déplaçait pas avec Aîné. Juste une soudaine absence. Aîné revint au bout de 5 minutes. Etmastine sortit du cercle des commandes et mit les mains dans les manches de sa robe.
« Où allez-vous ? » ?»«
À Passem, je vous prie. Voix de l'arbre authentique, Etmastine. »
Le templier ne bougea pas.
« Vous savez, cher ami, cher maître, que la Pax aura rappelé la moitié de ses vaisseaux de guerre dans le système du Vatican. »
Aîné leva les yeux et regarda les feuilles, bruissant doucement, du bel arbre sur lequel nous accomplissions notre voyage. À 1 kilomètre derrière nous, le rougeoiement du moteur à fusion nous poussait lentement hors du puits gravifique du monde de Barnard.
« Les ergues pourront-ils maintenir les champs jusqu'à ce que nous soyons proches de Passem ? »
demanda-t-elle. Les petites mains du capitaine sortirent des manches de sa robe, les paumes tournées vers le haut.
« J'en doute. Ils sont épuisés. Ils ont payé cher ces attaques contre eux. »
« Je sais. Et je le regrette infiniment. Il vous suffirait de rester dans le système pendant 1 minute ou 2. Peut-être que si vous accélériez maintenant, et que vous soyez prêt à manœuvrer à pleine puissance quand nous apparaîtrons dans le système de Passem, l'arbre étoile pourrait en repartir avant que ces champs soient détruits.
Nous allons essayer. Mais préparez-vous à vous translater immédiatement. La vie du vaisseau arbre sera peut-être comptée en secondes après notre arrivée.
D'abord, nous devons renvoyer le vaisseau du consul,
dit Aîné.
Il faut le faire maintenant, ici. Juste quelques instants, Etmastine.
Le templier hocha la tête, retourna à ses affichages et toucha les panneaux.
« Oh non !»
dis-je quand elle se retourna vers moi.
« Je n'irai pas sur Hyperion dans le vaisseau. »
Aînée parut surprise.
« Tu as cru que j'allais te renvoyer après t'avoir dit que tu m'accompagnerais ?»
Je croisai les bras. Nous sommes allés sur la plupart des mondes de la Pax et des confins, sauf Hyperion. Quoi que tu aies projeté, je ne crois pas que tu laisseras notre monde natal en dehors de tout cela.
Je suis d'accord. Mais je ne vais pas nous y translater.
Je ne comprenais pas.
Abétique, le vaisseau est prêt à partir. Avez-vous la lettre que j'ai écrite à Oncle Martin ?
Oui, Achéné, répondit l'androïde.
L'homme à la peau bleue n'avait pas l'air heureux, mais ne semblait pas affligé non plus.
Je vous en prie, transmettez-lui mon affection.
« Attends, attends, » dis-je.
« Abétique est ton envoyé sur Hyperion ?»
Aîné se frotta la joue. Je devinais qu'elle était encore plus épuisée que je ne pouvais l'imaginer, mais qu'elle réservait ses forces pour quelque chose d'important à venir.
« Mon envoyé ? Tu veux dire, comme Rachel, Théo, la Dorgée Famo, Georges et Jigmé ? » ?»«
Ouais. Et les 300 autres ?»«
Non. » Abétique ne sera pas mon envoyé sur Hyperion. Pas dans ce sens-là. Et le vaisseau du consul a un important déficit de temps en propulsion au King. Lui et Abétique,
n'arriveront pas avant un mois de notre temps.
Alors, qui est l'envoyé, la liaison sur Hyperion ? Demandai-je, certain que ce monde n'en serait pas exempté.
Tu ne le devines pas ?
Mon ami sourit.
Ce cher oncle Martin, le poète et le critique qu'il fut, redevient un joueur dans cette éternelle partie d'échecs avec le centre.
Mais les autres ont partagé la communion avec toi et... Je m'arrêtai.
Oui. Quand j'étais encore enfant. Oncle Martin a compris. Il a bu le vin. Cela n'a pas été difficile pour lui de s'adapter. À sa manière, en tant que poète, il y avait des siècles qu'il entendait le langage des morts et des vivants. C'est comme ça qu'il en est venu à écrire les cantos au début. Seulement, il croyait que le Gritch était sa muse.
Alors, pourquoi est-ce que Abéti qui rapporte le vaisseau ? Juste pour transmettre ton message ?
Plus que ça. Si les choses tournent comme je le souhaite, nous verrons.
Elle serra l'androïde dans ses bras, et de son unique main, il lui tapota gauchement le dos. Un moment plus tard, submergé par plus d'émotions que je ne l'aurais cru possible, je serrai sa main bleue.
« Vous allez me manquer !»
dis-je stupidement. L'androïde me regarda durant un long moment, hocha la tête et se dirigea vers le vaisseau en attente.
« Abétique ! »
criai-je au moment où il allait y entrer. Il se retourna et attendit pendant que je courais vers la petite pile d'affaires préparée sur la plateforme la plus basse, puis remontait l'escalier au trot.
« Vous voulez bien emporter ça ? »
dis-je en lui tendant le tube de cuir.
« Le tapis au King. Oui, bien sûr, à Chandimion. Je serais heureux de vous le garder jusqu'à ce que nous nous revoyions. »«
Et si nous ne nous revoyions pas ? »
dis-je, et je m'arrêtai. J'allais dire « Je vous en prie, donnez-le à Martin Silenus, mais je savais par les visions que j'avais en état de veille que le vieux poète était proche de la mort. »
« S'il arrive que nous ne nous revoyions pas, Abétique, je vous en prie, gardez le tapis en souvenir de notre voyage ensemble et de notre amitié. »
Abétique me regarda encore un moment en silence, hocha la tête et pénétra dans le vaisseau du consul. Je m'attendais un peu à ce que ce dernier nous fasse ses adieux, plein d'impropriétés de langage et de désinformation, mais il se contenta de conférer avec les ergues du vaisseau arbre. Ensuite, il s'éleva en silence sur ses répulseurs pour sortir du champ de confinement, puis s'éloigna en maintenant ses propulseurs à bas régime jusqu'à ce qu'il se trouve à bonne distance de nous. Sa traînée de fusion fut si brillante lorsqu'il accéléra pour quitter le monde de Barnard et l'Yggdrasil qu'elle me remplit les yeux de larmes. Je souhaitais alors de tout mon cœur qu'Aîné et moi soyons retournés sur Hyperion avec Abétique, tant j'avais envie de dormir dans le grand lit, tout en haut du vaisseau, puis d'écouter Aîné jouer sur le Steinway et de nager dans la piscine en impesanteur au-dessus du balcon.
« Il faut y aller, »
dit Aîné à Etmastin.
« Pouvez-vous, je vous prie, préparer les ergues à ce que nous allons affronter ?»«
Comme vous voulez, révéré qui enseigne, »
dit la voix de l'arbre authentique.
« Et Etmastin ?»
hésita Aîné. Le Templier se retourna et attendit d'autres ordres.
« Merci, Etmastin, »
fit-elle.
« De la part de tous ceux qui ont fait ce voyage avec vous et de tous ceux qui le raconteront aux générations à venir. Merci, Etmastin. »
Le Templier s'inclina et retourna à ses panneaux de contrôle.
« Moteur à fusion, plein régime jusqu'au point 9-2. Préparez-vous à effectuer une manœuvre dilatoire. Préparez-vous pour le système de Passem, »
dit-il à ses ergues chéries, enroulées autour de la singularité invisible, à 3/4 de kilomètre en dessous de nous.
Préparez-vous pour le système de Passem. »
Le père de Soya, resté silencieux, prit alors la main droite d'Aîné dans sa main gauche. De l'autre, il bénit calmement le Templier et l'équipe de clones.
In nomine Patri et Filii et Spiritus Sanctus.
Amen, répondis-je en m'emparant de la main gauche d'Aîné.
Amen,
dit Aîné. Chapitre 30. Nous fûmes touchés moins de 2 secondes après notre translation dans le système, le feu des vaisseaux torches et des archanges convergeant vers nous comme les requins arc-en-ciel avaient convergé vers moi dans les océans de Mare Infinitus.
« Allez-y !»
cria la voix de l'arbre authentique, Etmastine, plus fort que le torrent de bruit du chant.
« Les ergues sont mourants! Le champ de confinement lâchera dans quelques secondes! Allez-y! Puisse le muir guider vos pensées !»
Aîné n'avait eu que 2 secondes pour apercevoir l'étoile jaune au centre du système de Passem et l'étoile plus petite qu'était Passem elle-même, mais cela suffit. Nous nous tenions tous les 3 par la main quand nous nous translatâmes dans la lumière et le bruit, comme si nous surgissions du feu des lances qui faisaient bouillir les champs du vaisseau, tels des esprits s'élevant des lacs brûlants de l'enfer. La lumière s'évanouit, puis se réduisit à celle diffuse du soleil. Il y avait des nuages au-dessus du Vatican, il faisait froid, presque un temps d'hiver, et une petite pluie glacée tombait sur les rues pavées. Aîné avait revêtu ce jour-là une chemise marron, une veste de cuir de la même couleur, et un pantalon noir que j'avais l'habitude de lui voir porter. Ses cheveux, brossés en arrière, étaient retenus par 2 barrettes en écailles de tortue. Sa peau semblait fraîche, propre et jeune. Ses yeux, si là ces derniers jours, étaient brillants et calmes. Elle me tenait toujours par la main lorsque, tous 3, nous nous retournâmes pour regarder les rues et les gens qui nous entouraient. Nous étions à l'entrée d'une ruelle donnant sur un large boulevard. Des petits groupes, hommes et femmes en noir, bandes de prêtres, troupeaux de nonnes, enfants en rang par 2 derrière 2 religieuses, partout des parapluies noirs ou rouges, allaient et venaient sur les trottoirs tandis que des automobiles noires glissaient silencieusement dans les rues. J'aperçus des évêques et des archevêques sur les sièges arrière, leurs visages déformés par les gouttes et les ruisselets de pluie coulant sur les bulles des voitures. Personne ne semblait avoir remarqué notre arrivée, ni faire attention à nous. Aîné leva les yeux vers les nuages bas.
« L'Yggdrasil vient de se translater hors du système. L'un de vous l'a-t-il senti ?»
Je fermai les yeux pour me concentrer sur le flot onirique des voix et des images qui, maintenant, étaient toujours là, sous la surface. Il y avait une absence. Une image de flamme lorsque les branches extérieures commencèrent à brûler. Les champs ont cédé juste au moment où ils partaient. Comment ont-ils pu se translater sans toi, aîné ? Je vis la réponse dès que j'eus énoncé ma question.
Le Gritch, dis-je.
Oui.
Aîné me tenait toujours par la main. La pluie était froide et je l'entendais gargouiller dans les gouttières et les tuyaux derrière nous. Elle parlait très calmement.
Le Gritch va emmener l'Yggdrasil et la voix de l'arbre authentique dans l'espace et dans le temps. Vers sa destinée.
Je me souvins de bribes des Cantos. Le vaisseau arbre brûlait sous les yeux des pèlerins dans la mer des hautes herbes, peu avant que Etmastine disparaisse mystérieusement, enlevée par le Gritch, durant la traversée en chariot à vent. Puis le Templier était réapparu, en présence du Gritch, quelques jours plus tard près de la vallée des tombeaux du temps, pour mourir peu après de ses blessures. C'était le seul des 7 pèlerins qui n'avait pas narré son histoire pendant le voyage. Les pèlerins d'Hyperion, le colonel Cassad, le consul de l'hégémonie, Sol, le père de Rachel, Brown Lamia, la mère d'Aîné, le Templier Etmastine, Martin Silenus, le père Hoyt, le pape actuel, tous incapables, à l'époque, d'expliquer les événements. Pour moi, enfant, ce n'était que les anciennes paroles d'un mythe, des vers sur des étrangers. Ils avaient dû croire leurs efforts et leurs aventures terminées, puis se retrouver obligés de reprendre leurs tâches. Combien de fois, me dis-je maintenant, adulte de plus de 30 ans standard, combien de fois c'est le cas dans nos vies à tous?
Vous voyez cette église de l'autre côté de la rue?
Dit le père de Soya. Je dus secouer la tête pour me concentrer sur maintenant et ignorer les pensées et les voix qui me chuchotaient à l'oreille.
Oui,
dis-je en essuyant la pluie sur mon front. Est-ce la basilique Saint-Pierre?
Non. C'est l'église paroissiale Sainte-Anne et l'entrée du Vatican la plus proche, c'est la Porta Sant'Anna. L'entrée principale de la place Saint-Pierre est plus bas sur le boulevard, derrière ses colonnades.
Allons-nous sur la place Saint-Pierre? Demandai-je à Aîné. Entrerons-nous dans le Vatican?
On va voir si l'on peut, répondit-elle.
Nous empruntâmes le passage pour piétons, rien qu'un homme et une très jeune femme marchant avec un prêtre par une froide journée pluvieuse. Une pancarte indiquait que l'imposant bâtiment dépourvu de fenêtres, de l'autre côté de la rue, était la caserne des gardes suisses. Les soldats en costume de la Renaissance, manteau noir, collerette blanche, culottes jaunes et noires, armés de piques, montaient la garde à la Porta Sant'Anna et au croisement, alors que la police de la Pax, en trop sérieuse armure d'impact noir, assurait des barrages routiers et planait au-dessus de nos têtes dans des glisseurs noirs. La place Saint-Pierre était fermée aux piétons, et des gardes vérifiaient attentivement les laissez-passer et les cartes d'identité à puce.
« On ne peut pas passer, » dit le père de Soya.
Il faisait assez sombre pour qu'on ait allumé, en haut de la colonnade du Bernin, les projecteurs qui illuminaient la statuaire et les armes papales. Le prêtre nous montra deux fenêtres éclairées au-dessus de la colonnade, à droite de la façade de Saint-Pierre, que couronnaient les statues du Christ, de Jean-Baptiste et des apôtres.
« Ce sont les bureaux du pape. »
« Juste à portée de fusil, » dis-je bien que je n'ai pas eu l'intention d'attaquer le pontife. Le père de Soya fit non de la tête.
« Champ de confinement classe 10. »
Il jeta un coup d'œil alentour. La plupart des piétons avaient franchi les portes de la place Saint-Pierre et nous étions devenus beaucoup trop visibles.
« On va nous demander nos papiers si nous ne faisons pas quelque chose. »«
Ces mesures de sécurité sont-elles normales ?»
demanda Aîné.
« Non, » répondit le père de Soya. C'est peut-être à cause du message annonçant votre arrivée, mais c'est probablement parce que sa sainteté est en train de dire la messe. Ces cloches que nous avons entendues étaient un appel à la cérémonie qu'il préside.
Comment le savez-vous ? Dis-je, étonné qu'il puisse affirmer cela rien qu'en entendant sonner quelques cloches. Le père de Soya eut l'air surpris.
Je sais qu'aujourd'hui c'est le jeudi saint,
répondit-il, l'air choqué, soit parce que nous ignorions un fait aussi élémentaire, soit parce qu'il l'avait oublié jusqu'à cet instant.
« C'est la semaine sainte, »
poursuivit-il à voix basse, l'air de se parler à lui-même.
« Pendant toute cette semaine, sa sainteté doit remplir ses devoirs de pape et d'évêque. Aujourd'hui, cet après-midi, certainement au cours de cette messe, il va accomplir la cérémonie du lavement de pieds de 12 prêtres qui symbolisent les 12 disciples dont Jésus a lavé les pieds le soir de la scène. » Cela se déroulait toujours dans l'église diocésaine du pape, la basilique Saint-Jean de Latran, qui était autrefois hors des murs du Vatican, mais depuis que celui-ci a été transporté sur Passem, elle a lieu dans la basilique Saint-Pierre. Saint-Jean de Latran n'a pas survécu à l'égir. Elle a été détruite durant la guerre des Sept Nations au XXIe siècle et...
De Soya mit fin à ce que je prenais pour un bavardage dû à l'émotion. Son visage s'était figé, comme cela arrive dans les formes douces de l'épilepsie ou chez les gens qui réfléchissent profondément. Aîné et moi attendîmes. Je reconnais que je regardais avec inquiétude la patrouille des hommes de la sécurité en armure noire qui s'avançaient vers nous.
« Je sais comment faire pour entrer au Vatican, »
dit le père de Soya, et il se tourna vers une ruelle de l'autre côté du boulevard.
« Bien. »
Aîné se hâta de le suivre. Le jésuite s'arrêta brusquement.
« Je pense pouvoir nous faire entrer, mais je ne vois pas comment en ressortir. »«
Contentez-vous de nous faire entrer, je vous en prie, »
dit Aîné. Il y avait une porte en acier à l'arrière d'une chapelle en ruine, sans fenêtre, à trois pâtés de maison du Vatican. Elle était fermée par un petit cadenas et une large chaîne. La pancarte accrochée sur la porte scellée disait « Visite un samedi sur deux seulement, fermée pendant la semaine sainte, Bureau des visites du Vatican, 3888, place des premiers martyrs chrétiens.
Pouvez-vous briser cette chaîne ?
Me demanda le père de Soya. Je tâtai la chaîne massive et le cadenas solide. Mon seul outil, ma seule arme, était le petit couteau de chasse que je portais toujours dans la gaine de ma ceinture. Non. Mais peut-être puis-je crocheter la serrure. Voyez si vous pouvez me trouver un fil de fer dans cette poubelle-là. Un fil de fer d'emballage ferait l'affaire. Nous restâmes sous le crachin pendant au moins 10 minutes dans la lumière qui baissait et le bruit croissant de la circulation des boulevards avoisinants, craignant à chaque instant qu'un garde suisse ou un membre de la sécurité ne fonde sur nous. Tout ce que j'avais appris sur la manière de crocheter les serrures me venait d'un vieux marinier sur la Canse qui s'était mis au jeu d'argent depuis que les autorités de Port-Romance lui avaient coupé deux doigts pour vol. Tout en m'évertuant, je pensais aux 10 années de notre odyssée, à Aîné et à moi, au long voyage du père de Soya jusqu'à ce lieu, aux centaines d'années-lumière parcourues et aux dizaines de milliers d'heures de tension et de souffrance, de sacrifices et de terreur. Et cette putain de serrure à 10 florins ne voulait pas céder. Pour finir, la pointe de la lame de mon couteau se brisa. Je jurais, jetai le couteau au loin, et balançai contre le mur de pierre noircie cette saleté de merde de chêne avec son crétin de cadenas. Ce dernier s'ouvrit en cliquetant. Il faisait sombre à l'intérieur. Il n'y avait pas d'interrupteur, du moins aucun de nous ne put en trouver un. S'il y avait une stupide IA quelque part pour contrôler les lumières, elle ne réagit pas à nos ordres. Aucun de nous n'avait apporté de lampe de poche. Après avoir porté une torche laser pendant des années, j'avais aujourd'hui laissé la mienne dans mon sac à dos. Quand l'heure était venue de quitter l'Yggdrasil, je m'étais avancé et j'avais pris la main d'Aîné sans penser aux armes ou aux autres choses nécessaires.
Est-ce la basilique Saint-Jean de Latran ?
Murmura Aîné. Il était impossible de parler autrement qu'en chuchotant dans ses ténèbres oppressantes.
Non, non,
répondit le père de Soya. Juste une minuscule chapelle commémorative édifiée près de la basilique au XXIe siècle. Il se tut et j'imaginais qu'il reprit son expression pensive.
Je crois qu'elle sert toujours. Attendez ici.
Aîné et moi restâmes épaule contre épaule, écoutant le père de Soya faire le tour du minuscule bâtiment. Quelque chose de lourd tomba avec un bruit métallique sur la pierre et nous retînmes notre respiration. Une minute plus tard, j'entendis de nouveau le bruit de ses mains glissant sur les murs et le bruissement de sa soutane. Un « Ah !» retentit et une seconde après, la lumière jaillit. Le jésuite, à moins de 10 mètres de nous, brandissait une allumette enflammée. Dans la main gauche, il tenait une boîte.
« Dans une chapelle, » expliqua-t-il, « il y a toujours des cierges. »
Je vis que les bougies avaient brûlé jusqu'au bout et n'avaient jamais été remplacées, mais les cierges et cette unique boîte d'allumettes étaient restés depuis Dieu savait quand, dans cet endroit sombre et abandonné. Nous rejoignîmes de Soya dans le petit cercle de lumière, pendant qu'il frottait une seconde allumette, et nous le suivîmes jusqu'à une lourde porte en bois derrière un rideau pourrissant.
Le père Baggio, le chapelain de ma résurrection, m'a parlé de cette visite guidée quand je fus assigné à résidence ici il y a quelques années.
Nous confia à voix basse le père de Soya. Cette porte-là n'était pas fermée, mais s'ouvrit avec un grincement de ses vieux gonds pas huilés.
Il devait penser qu'elle pourrait combler mon sens du macabre,
poursuivit-il, en commençant à descendre un étroit escalier à vis, pas plus large que mes épaules. Aîné suivit le prêtre. Je marchais sur ses talons. L'escalier continuait à s'enfoncer dans le sol. J'estimais que nous étions au moins à 20 mètres sous la rue lorsqu'il prit fin et que nous nous engageâmes dans une série d'étroits corridors aboutissant à un couloir plus large et sonore. Le prêtre avait épuisé une 12 d'allumettes, ne laissant tomber chacune d'elles que lorsqu'elle lui brûlait les doigts. Je ne demandais pas combien il en restait dans la petite boîte.
Quand l'Église décida, pendant l'égire, de déplacer Saint-Pierre et le Vatican,
dit De Soya d'une voix assez forte pour remplir l'espace obscur,
ils les transportèrent sur Passem en utilisant de lourds élévateurs de champs et des tours de champs tracteurs. Comme la masse n'était pas un problème, ils ont emporté la moitié de Rome avec eux, y compris l'énorme château Saint-Ange et tout ce qu'il y avait sous la vieille cité jusqu'à une profondeur de 60 mètres. C'était le réseau du métro au XXe siècle.
Le père de Soya s'engagea sur ce qui, je le compris, était un quai de métro abandonné. Le carrelage du plafond s'était détaché par endroits, et partout, sauf un étroit passage dégagé, s'entassaient des siècles de poussière, de pierres tombées, de plastique brisé, de pancartes illisibles couchées sur les débris et de bancs en morceaux. Nous descendîmes de nombreuses marches métalliques corrodées, je compris qu'il s'agissait d'escaliers mécaniques arrêtés depuis plus de 1000 ans, suivîmes un étroit couloir que prolongeait une rampe sonore, puis arrivâmes sur un autre quai. À son extrémité, je vis une échelle de fibroplast qui menait à l'endroit où s'étaient trouvés les rails. Où les rails étaient enfouis sous plusieurs couches de poussière, de gravats et de rouille.
Nous venions juste de descendre l'échelle et mettions le pied dans le tunnel du métro quand l'allumette s'éteignit. Mais Aîné et moi avions eu le temps de voir ce qui s'étendait devant nous. Des ossements. Des ossements humains. Des crânes et des os soigneusement empilés sur près de 2 mètres de haut de chaque côté d'un étroit passage ménagé entre les rails rouillés. De grands entassements d'os longs dont la cavité alvéolaire était tournée vers l'extérieur et des crânes disposés avec soin à 1 mètre d'intervalle ou en motif géométrique dans les murs noueux faits d'ossements humains. Le père de Soya frotta une autre allumette et s'avança à grands pas entre les parois de ces restes réduits à l'état de squelette. Le souffle d'air de son mouvement fit vaciller la minuscule flamme qu'il tenait en l'air. Après la guerre des 7 nations, au début du XXIe siècle, dit-il, accordant à sa voix un volume normal, les cimetières de Rome devinrent pleins à ras-bord. On creusa des fosses communes dans les faubourgs de la ville et dans les grands parcs. Cela posait un problème sanitaire à cause du réchauffement du globe et de constantes inondations. Les ogives bio et chimiques, vous comprenez ? Les métros cessèrent de circuler. Aussi le pouvoir en place autorisa-t-il l'enlèvement des restes et leur emménagement dans l'ancien métro. Cette fois, quand l'allumette fut consumée, nous étions dans une section où les os s'entassaient sur 5 couches de haut, chacune séparée des autres par une rangée de crânes dont les fronts blancs reflétaient la lumière, mais dont les orbites aveugles restaient indifférentes à notre passage. Les murs d'eau bien rangés s'étendaient de chaque côté sur au moins 6 mètres de largeur et s'élevaient jusqu'au plafond voûté à 10 mètres au-dessus de nous. En certains endroits s'était produite une petite avalanche d'eau et de crânes, et nous dûmes nous frayer un chemin avec précaution. Nous en écrasâmes tout de même quelques-uns. Nous ne bougions pas pendant les intervalles d'obscurité entre les allumettes et attendions en silence. Il n'y avait pas d'autre bruit, pas de rats en fuite ni d'eau qui s'égouttait. Seule notre respiration et quelques paroles échangées à voix basse troublaient le silence. Curieusement, dit le père de Soya quand nous eûmes parcouru 200 mètres de plus, ils ne se sont pas inspirés des anciennes catacombes de Rome qui s'étendent autour de nous, mais des prétendues catacombes de Paris, de vieilles carrières creusées sous la ville. Les Parisiens ont enlevé les ossements de leur cimetière archicomble pour les déposer dans ces tunnels entre la fin du XVIIIe siècle et le milieu du XIXe siècle. Ils ont découvert que quelques kilomètres de couloirs pouvaient facilement recevoir 6 millions de morts. Ah ! Nous y sommes. Sur notre gauche, dans un corridor d'ossements encore plus étroit, des marques de bottes dans la poussière menaient à une autre porte en acier, celle-là pas fermée à clé. Nous dûmes nous y mettre tous les trois pour l'ouvrir de force. Le prêtre nous fit descendre un autre escalier rouillé, en spirale, jusqu'à une profondeur que j'estimais à environ 35 mètres sous la rue. L'allumette s'éteignit juste au moment où nous pénétrions dans un autre tunnel, bien plus ancien que la voûte du métro, dont les côtés et le plafond, pas terminés, étaient délabrés. J'avais entrevu dans des passages latéraux des ossements éparpillés au hasard, des crânes renversés, des bouts de vêtements pourris. « D'après le père Baggio, chuchota le prêtre, c'est ici que commencent les vraies catacombes chrétiennes. Elles remontent au 1er siècle. » Une nouvelle allumette s'enflamma. J'entendis un petit bruit émanant de la boîte qui signifiait qu'il restait certainement très peu d'allumettes. C'est par là, je suppose, dit le père de Soya, et il nous emmena sur sa droite. Nous sommes sous le Vatican maintenant ? S'enquit à mi-voix Aîné, quelques minutes plus tard. Je sentais son impatience. L'allumette brilla et s'éteignit. Bientôt, bientôt, lança de Soya dans les ténèbres. Il en alluma une autre. Je n'entendis plus de bruit dans la boîte. Après environ 150 mètres, le couloir se terminait en cul-de-sac. Il n'y avait là ni ossements, ni crânes, seulement des murs de pierre rugueux et un fragment de maçonnerie au fond du tunnel. L'allumette s'éteignit. Aîné toucha ma main tandis que nous attendions dans le noir. « Je regrette, » dit le prêtre. « Il n'y a plus d'allumette. » Je luttais contre un accès de panique. J'étais sûr d'entendre des bruits maintenant. Au mieux, des pattes de rats s'enfuyant. au pire des bottes sur les marches. Faut-il revenir sur nos pas ? Murmurai-je en ayant l'impression de parler trop fort dans ces ténèbres absolues.
Le père Baggio disait que ces catacombes-ci, au nord, étaient autrefois reliées à celles plus anciennes qui se trouvent sous le Vatican,
chuchota le père de Soya.
Sous la basilique Saint-Pierre, pour être précis.
Eh bien, on dirait que nous ne... commençais-je.
Puis je m'arrêtai.
Dans les quelques secondes de lumière précédant l'extinction de l'allumette, j'avais entrevu l'aspect relativement récent du mur de briques. Quelques siècles par rapport aux millénaires qui s'étaient écoulés depuis qu'on avait taillé ceux en pierre. Je m'avançais très lentement, me dirigeant à tâtons, jusqu'à ce que mes doigts rencontrent les briques et le mortier dégradé.
Ce mur a été monté rapidement,
dis-je parlant avec l'autorité que j'avais acquise en tant qu'assistant d'un paysagiste sur les terres du Bec bien des années auparavant.
Le mortier est craquelé et certaines briques s'émiettent,
dis-je tandis que mes doigts se déplaçaient rapidement.
« Me faudrait un outil. Merde, je n'aurais pas dû jeter mon couteau. »
Aîné me tendit dans le noir un bâton ou une branche, et je m'en servais déjà depuis quelques minutes lorsque je me rendis compte que je travaillais avec un fémur brisé. Aîné et le prêtre se joignirent à moi, et nous creusâmes, armés d'eau, grattant la brique froide avec nos ongles jusqu'à ce qu'il se casse et que nos doigts saignent. Au bout d'un certain temps, nous nous arrêtâmes pour reprendre notre souffle. Nos yeux ne s'étaient pas habitués à l'obscurité. Il n'y avait aucune lumière en ces lieux.
« La messe aura pris fin !»
chuchota Aîné. Le ton de sa voix en faisait un événement tragique.
« C'est une grand-messe, » dit le prêtre. « Une longue cérémonie. Attendez !»
Mes doigts avaient surpris un léger ébranlement des briques, pas de l'une d'elles ou de quelques-unes, mais de tout le pan de mur.
« Reculez !» fis-je d'une voix forte. « Rampez jusqu'à la paroi du tunnel !»
Je reculai moi aussi, mais gardai le dos droit, levai mon épaule gauche, baissai la tête et chargeai, ramassé sur moi-même, m'attendant presque à me cogner la tête contre la pierre et à me mettre KO. Je heurtai les briques avec un fort grognement et provoquai une averse de poussière et de petits débris. Les briques n'étaient pas tombées. Pourtant, je les avais senties céder. Aîné et De Soya se joignirent à moi et en une minute, nous avions repoussé les briques du centre et fait dégringoler toute la masse. De l'autre côté du passage, il y avait une infime lueur, suffisante pour nous révéler une rampe faite de gravats qui menait à un tunnel encore plus profond. Nous rampâmes à quatre pattes, trouvâmes enfin assez de place pour nous relever et traversâmes le couloir qui sentait la terre. Deux tournants de plus, et nous entrions dans une catacombe taillée aussi grossièrement que l'autre, mais éclairée par une étroite bande luminescente qui courait à hauteur de ceinture, le long du mur de droite. Encore 50 mètres de tournants et de zigzags, puis nous débouchâmes dans un tunnel plus large, où des globes fluorescents modernes étaient disposés tous les 5 mètres. Ils n'étaient pas allumés, mais la vieille bande luminescente persistait toujours.
« Nous sommes sous Saint-Pierre !» murmura le père de Soya. Cet endroit fut redécouvert pour la première fois en 1939, quand on enterra le pape Pie XI dans une grotte qui ne doit pas être loin. On poursuivit les fouilles pendant une 20aine d'années, puis elles furent abandonnées. On ne les a jamais rouvertes aux archéologues.
Nous entrâmes dans un couloir encore plus large, assez pour que nous puissions tous trois marcher de front pour la première fois. Ici, les vieux murs de pierre ou de plâtre, portant parfois une incrustation de marbre, étaient couverts de fresques et de mosaïques des premiers siècles, et des statues brisées surplombaient des grottes où s'entassaient des ossements et des crânes. Quelqu'un avait un jour couvert d'une feuille de plastique de nombreuses grottes, le matériau en jaunissant s'était opacifié, rendant presque invisibles les restes mortels, mais en se penchant et en regardant de près, on pouvait distinguer des ovales pelviens et des orbites vides qui nous rendaient nos regards. Les fresques représentaient des scènes bibliques et des symboles chrétiens, des colombes portant un brin d'olivier, des femmes tirant de l'eau au puits et le poisson omniprésent. Mais elles avoisinaient des grottes plus anciennes, des urnes crématoires et des tombeaux ornés d'images pré-chrétiennes d'Isis et d'Apollon, de Bacchus accueillant les morts avec de grandes coupes débordant de vin, de bœufs et de boucs cabriolants, de satyres en train de danser, Je remarquai aussitôt la ressemblance avec Martin Silenus et me retournai juste à temps pour saisir le regard entendu d'Aîné. Et d'autres êtres que le père de Soya décrivit comme des ménades, quelques scènes rurales, des perdrix alignées, un paon lissant ses plumes composées de petits morceaux de lapis-lazuli, d'un bleu encore brillant qui reflétait la lumière. Regarder ces choses au travers de l'ancien plastique tacheté et du plastiglas évoqua en moi l'image d'un aquarium terrestre de la mort. Pour finir, nous arrivâmes à un mur rouge qui formait un angle droit avec un autre plus bas, d'un bleu passé, marbré, où l'on voyait encore des restes de graffitis latins. Ici, la feuille de plastique était plus neuve, plus fraîche, et le petit conteneur d'os, à l'intérieur, bien visible. Le crâne avait été déposé au sommet d'ossements bien empilés et semblait nous regarder avec un certain intérêt. Le père de Soya se mit à genoux dans la poussière, fit le signe de la croix et inclina la tête, en prière. Aîné et moi nous reculâmes et le regardâmes avec la gêne qu'éprouve l'incroyant en présence d'une foi sincère. Quand le prêtre se releva, il avait les yeux mouillés de larmes.
Si l'on en croit l'histoire de l'Église et le père Baggio, les ouvriers ont découvert ces pauvres ossements en 1949. Une analyse ultérieure montra qu'il appartenait à un robuste sexagénaire. Nous sommes directement sous le grand autel de la basilique Saint-Pierre, qui fut édifié là parce qu'on croyait que l'apôtre avait été secrètement enterré juste à cet endroit. En 1968, le pape Paul VI annonça que le Vatican était certain qu'il s'agissait bien des restes du pêcheur, ce Pierre qui suivit Jésus et fut la pierre sur laquelle le Christ bâtit son Église.
Nous regardâmes en silence le tas d'ossements et nous nous retournâmes vers le prêtre.
« Federico, vous savez que je n'essaie pas de ruiner l'Église, » dit Aîné. « Seulement cette aberration actuelle. »
« Oui, » répondit le père de Soya qui, en s'essuyant rapidement les yeux, y laissa des marques boueuses.
« Je le sais, Aîné. »
Il regarda autour de lui, se dirigea vers une porte et l'ouvrit. Un escalier de métal menait vers le haut.
« Il va y avoir des gardes, » soufflai-je.
« Je ne crois pas. » dit Aîné. Le Vatican a passé 800 ans dans la crainte d'une attaque venue de l'espace. D'en haut ? Je ne crois pas qu'ils aient beaucoup pensé à leur catacombe.
Elle devança le prêtre et commença à gravir rapidement, mais en silence, les marches métalliques. Je me hâtai de la suivre. Je vis le père de Soya jeter un regard derrière lui, sur la grotte mal éclairée, se signer une dernière fois et nous suivre dans notre montée vers Saint-Pierre de Rome. Dans la basilique, la lumière du jour, bien qu'adoucie par l'heure tardive et les vitraux, et celle des cierges, nous parurent aveuglantes après les catacombes. Nous étions montés par des lieux saints souterrains, dont une chapelle commémorative consacrée au pape Caius, dont le nom était gravé dans la pierre. Nous avions longé des couloirs latéraux et franchi des entrées de service, traversé le vestibule qui menait à la sacristie, défilant devant des prêtres et des enfants de chœur qui tendaient le cou, et enfin, nous avions pénétré dans l'espace plein d'échos, au fond de la nef de la basilique Saint-Pierre. Ici se tenaient des douzaines de dignitaires, pas assez importants pour avoir obtenu une place dans les bancs, mais assez honorables pour pouvoir assister, au fond de l'église, à cette importante célébration. Un seul coup d'œil nous suffit pour voir que des gardes suisses et des membres de la sécurité étaient postés à toutes les entrées et dans toutes les pièces extérieures pourvues d'issue. Ici, au fond de la basilique, nous passerions inaperçus pour le moment, juste un prêtre et deux de ses paroissiens, qui n'étaient pas vêtus avec l'élégance requise, mais à qui l'on permettait de tendre le cou pour apercevoir le Saint-Père en ce jeudi saint. La messe n'était pas finie. L'air sentait l'encens et la cire des cierges. Des centaines d'évêques en robes violettes et des personnages de marque s'alignaient dans les rangées de bancs luisants. À la table de communion, devant le splendide dais baroque du trône de Saint-Pierre, le pape en personne s'agenouilla pour accomplir sa tâche servile, laver les pieds des 12 prêtres assis, 8 hommes et 4 femmes. Un grand chœur invisible chantait. « C'est par toi seul, ô Saint-Esprit, que nous connaissons le Père et le Fils,
Que notre foi soit ferme et jamais ne renie que de l'un et de l'autre tu procèdes, que de l'un et de l'autre tu procèdes. Gloire au Seigneur, au Père et au Fils et au Saint-Esprit qui ne font qu'un, et que le Fils nous comble chacun de tous les dons que répand l'Esprit, de tous les dons que répand l'Esprit. J'hésitais alors, me demandant ce que nous faisions là, pourquoi cette bataille incessante d'aînés nous avait amenés au centre de la foi de ces gens. Je croyais à tout ce qu'elle nous enseignait, faisais grand cas de ce qu'elle partageait avec nous. Mais 3000 ans de tradition et de foi avaient inspiré les paroles de ce beau chant et édifié les murs de ce puissant édifice. Je ne pouvais m'empêcher d'évoquer les simples plateformes de bois, les ponts et les escaliers du temple suspendus dans les airs reconstruits par Aînée, solides mais dépourvus d'élégance. Qu'était-ce ? Qu'étions-nous comparés à cette splendeur et à cette humilité ? Aînée était une architecte en grande partie autodidacte, sauf pendant ses années d'adolescence passées sous l'autorité du cybride de Ashright, où elle avait construit des murs de pierre dans le désert et délayé du ciment à la main. Michel-Ange avait participé à l'édification de cette basilique. La messe arrivait à sa fin. Certaines personnes debout au fond de la nef commençaient à partir en marchant sur la pointe des pieds afin de ne pas troubler les derniers instants de l'office et ne se mettaient à bavarder que sur les marches descendant vers la place. Je vis qu'Aînée murmurait quelque chose à l'oreille du père de Soya et je me penchai vers eux pour entendre, de peur de manquer une instruction essentielle.
« Père, me rendrez-vous un grand service ? Le dernier ? »
demanda-t-elle.
« Tout ce que vous voudrez, » répondit le prêtre aux yeux tristes. « Je vous en prie, quittez la basilique maintenant. Je vous en prie, sortez tranquillement avec ces gens. Partez maintenant et perdez-vous dans Rome jusqu'au jour où nous cesserons d'être perdus. »
Le père de Soya, choqué, rejeta la tête en arrière, regardant Aînée avec l'expression de quelqu'un qui se sent rejeté. Il se pencha à son oreille.
« Demandez-moi autre chose, maître. C'est tout ce que je demande, père. Et je le demande avec respect et amour. »
Le cœur se mit à chanter une autre hymne. Par-dessus les têtes, je pus voir le Saint-Père terminer le lavement des pieds des prêtres et revenir à l'autel sous le dais doré. Toute l'assemblée attendait, debout, les dernières prières et la bénédiction finale. Le père de Soya bénit mon ami, se retourna et quitta la basilique avec un groupe de moines dont les chapelets cliquetaient. Je regardais Aînée avec assez d'intensité pour enflammer du bois, essayant de lui envoyer le message mental « Ne me demande pas de partir !» Elle me fit signe d'approcher et me chuchota à l'oreille
« Fais une dernière chose pour moi, Roll, mon amour. »
Je faillis crier « Non, bon Dieu de merde !» de toute la puissance de mes poumons dans la nef sonore de la basilique Saint-Pierre pendant les instants les plus sacrés de la grand-messe du jeudi saint. Je me contentai d'attendre. Aînée fouilla dans les poches de sa veste et en tira un petit flacon. Le liquide qu'il contenait était clair, mais semblait plus lourd que l'eau.
« Tu veux bien boire ça ? »
susurra-t-elle, et elle me tendit le flacon. Je pensais à Roméo et Juliette, à César et Cléopâtre, à Abélard et Héloïse, à George Wu et Howard Sung, à tous les amants maudits. Le suicide par le poison. Je bus la potion d'une seule goulée, mis le flacon vide dans la poche de poitrine de ma chemise, m'attendant à ce qu'Aînée sorte et boive une potion similaire. Elle ne le fit pas.
« Qu'est-ce que c'était ? »
balbutiai-je sans craindre la réponse. Aînée regardait les derniers instants de la messe. Elle se pencha plus près pour murmurer
« Un antidote aux médicaments anticonceptionnels que tu as pris quand tu es devenu garde national. »
Je faillis hurler « Merde alors ! » plus fort que les dernières paroles du Saint-Père. « Tu t'occupes de planning famille maintenant ? T'es devenu complètement cinglé ?» Elle se pencha, son souffle chaud sur ma joue, et glissa à mon oreille.
« Dieu merci, je le portais depuis 2 jours et j'ai failli l'oublier. Ne t'inquiète pas,
cela n'agira pas avant 3 semaines. Et tu ne tireras plus jamais à blanc. »
Je clignais des yeux. Était-ce un blasphème volontairement émis dans la basilique Saint-Pierre ou juste une extraordinaire faute de goût? Puis mes pensées changèrent de régime. C'est une merveilleuse nouvelle. Quoi qu'il puisse arriver, Aînée envisage un avenir pour nous, pour elle-même. Elle veut avoir un enfant avec moi. Mais, et son premier alors? Et pourquoi est-ce que je suppose qu'elle a fait cela pour qu'elle et moi puissions? Pourquoi voudrait-elle? Peut-être que c'est son cadeau d'adieu. Pourquoi voudrait-elle? Pourquoi? Embrasse-moi, Rol,
chuchota-t-elle assez fort pour qu'une vieille religieuse devant nous se retourne avec une expression sévère. Je ne la questionnais pas. Je l'embrassais. Ses lèvres étaient douces et un peu mouillées, juste comme la première fois que nous nous étions embrassés au bord du Mississippi, dans un endroit appelé Hannibal. Le baiser parut durer une éternité. Elle me caressa la nuque de ses doigts froids avant que nos lèvres se séparent. Le pape vint se mettre le dos à l'abside. Il se tourna vers les deux bras du transept, puis vers la courte nef, et finalement vers la nef longitudinale pour nous accorder sa bénédiction finale. Aînée se dirigea vers l'aile principale, en poussant gentiment les gens jusqu'à ce qu'elle soit sortie de notre rang, puis marcha à grands pas vers l'autel.
« Lénard Hoyt !»
cria-t-elle, et sa voix se répercuta sur le dôme à 100 mètres au-dessus de nos têtes. Il y avait plus de 150 mètres entre l'endroit où nous étions restés debout et celui où le pape interrompait maintenant sa bénédiction, et je savais qu'Aînée n'avait aucune chance de franchir cette distance avant d'être interceptée, mais je me précipitais pour la rattraper.
« Lénard Hoyt !»
cria-t-elle de nouveau, et des centaines de têtes se tournèrent vers elle. Je perçus un mouvement dans les ombres cintrées, de chaque côté de la nef. La garde suisse entrait en action.
« Lénard Hoyt! Je suis Aînée, la fille de Brown Lamia qui fit le pèlerinage avec vous sur Hyperion pour affronter le Gritch! Je suis la fille du cybride John Keats que vos patrons du centre ont tué 2 fois !»
Le pape restait comme pétrifié, un doigt osseux levé pour la bénédiction maintenant pointé vers elle, tremblant comme s'il était pris de paralysie agitante. Son autre main s'agrippa à ses vêtements au niveau de sa poitrine. Sa mitre trembla lorsque sa tête s'agita plusieurs fois d'avant en arrière.
« Vous !»
dit-il d'une voix haut perchée et ténue.
« L'abomination ! C'est vous, l'abomination !»
lança Aînée qui courait maintenant, se débarrassant à coups d'épaule des silhouettes en robe noire qui sortaient des bancs pour l'attraper. J'arrachai 2 hommes de son dos et elle continua à courir. Je sautai par-dessus une silhouette qui se précipitait vers elle et trottai à côté d'Aînée, surveillant les gardes suisses qui traversaient la foule en bousculant les gens, leur pic à énergie levé, mais hésitant à tirer alors que tant de dignitaires du Vatican et du Mercantilus se trouvaient dans leur ligne de feu. Je savais qu'ils n'hésiteraient plus si elle approchait à moins de 10 mètres du pape.
« C'est vous l'abomination !»
cria-t-elle de nouveau, courant vite maintenant, esquivant les mains et les bras qui se tendaient pour la saisir.
« Vous êtes le Judas de l'Église catholique, Lénard Hoyt! Vous vendez son histoire sacrée au... »
Un homme costaud, en uniforme d'amiral de la flotte de la Pax, tira du fourreau son épée de cérémonie et tenta de trancher le cou de ma bien-aimée. Elle baissa la tête. Je bloquai le bras de l'amiral, le cassai, éloignai l'épée d'un coup de pied et rejetai l'homme qui glissa sur la moitié du rang, au milieu de ses subordonnés. Le colonel Cassatt disait que depuis qu'il avait appris le langage des vivants, il ressentait la douleur qu'il administrait aux autres. Je vécus cela, alors. Je sentis se déchirer les muscles et les nerfs, se briser les os de mon avant-bras, puis la collision que subit tout mon corps lorsque l'amiral heurta ses hommes. Mais quand je regardais mon bras, il était intact. La seule pénalité était la douleur. La douleur, je m'en moquais. Un cordon de prêtres, de moines et d'évêques se forma entre Aînée et le pape. Je vis le pontife serrer plus fort sa poitrine et tomber. Mais plusieurs diacres qui l'entouraient le rattrapèrent et l'emportèrent sous le dais du trône de Bernin.
des gardes suisses se précipitèrent et formèrent de leur corps et de leur pique une barrière qui s'opposa à Aîné. D'autres vinrent se mettre derrière nous, en repoussant brutalement les spectateurs à coups de pique. La sécurité de la Pax, en armure noire et ceinture de vol à répulseur, prit son vol à 10 mètres au-dessus de l'assemblée des fidèles. Les points de visée des lasers dansaient sur le visage et la poitrine d'Aîné. Je m'interposais entre elle et les décharges d'énergie, les nuées de fléchettes qui n'allaient pas tarder. Le rayon laser m'aveugla l'œil droit lorsque son point de visée passa devant. J'écartais les bras et beuglais quelque chose. Un défi peut-être. Une bravade sûrement. Un énorme cardinal cria d'une voix de basse qui gronda comme la voix de Dieu.
« Non ! Ne les tuez pas !»
Un garde suisse se précipita sur Aîné, la pique levée pour l'assommer d'un coup sur la tête. Elle se jeta par terre, glissa sur les dalles et le heurta au niveau des genoux, l'envoyant vers moi, bras et jambes écartés. Je lui donnai un coup sur la tête et me retournai pour arracher la pique des mains d'un autre en le rejetant dans la foule, menacé de mon arme 5 gardes qui se précipitaient vers nous. Ils s'écartèrent. Un soldat de la sécurité tira, en plein vol, 2 fléchettes qui se fichèrent dans mon épaule gauche. Je présumais qu'elles étaient anesthésiantes, mais les arrachais et les jetais vers la silhouette volante. Je ne sentais rien. 2 gardes, un homme de haute taille et une femme plus grande et plus forte, me saisirent les bras. Je les soulevais et cognais leurs crânes l'un contre l'autre, puis les laissais tomber sur les dalles. Aîné. Elle s'était relevée et se libérait d'un garde, mais 2 formes en armure noire lui bloquaient la route. L'assemblée criait. L'orgue de la grande basilique hurla soudain comme une femme en gésine. Un homme de la sécurité tira sur Aîné à 5 mètres de distance. Elle pivota sur ses talons. Une femme en armure noire la fit tomber d'un coup sur la tête, l'enjamba et lui bloqua les bras derrière le dos. D'un coup de mon avant-bras, j'envoyais la salope de la Pax valdinguer à 5 mètres. Un garde m'enfonça le manche de sa pique dans le ventre. Un volant de la sécurité me tira dessus avec un étourdisseur neural. Cette arme est censée agir instantanément, mais j'eus le temps de prendre à la gorge le garde le plus proche avant qu'il ne m'étourdisse de nouveau, puis 1/3 fois. Des spasmes convulsèrent mon corps, je tombais et pissais dans ma culotte lorsque toutes les fonctions volontaires cessèrent. Ma dernière sensation consciente fut le flot froid d'urine coulant dans les jambes de mon pantalon, jusque sur le dallage parfait de la basilique Saint-Pierre. Je ne fus pas vraiment conscient des 12 corps lourds qui atterrirent sur mon dos, m'immobilisèrent les bras et me tirèrent hors de la basilique. Je n'entendis pas vraiment, ni ne sentis mon front heurter bruyamment le sol, ou ma peau se fendre du sourcil à la naissance des cheveux. Dans les 3 ou 4 dernières secondes de semi-conscience, je vis des pieds noirs, des bottes de combat, un casque de garde suisse et d'autres pieds. Je savais qu'Aîné était tombée à ma gauche, mais je ne pus tourner la tête pour la regarder une dernière fois. On m'emmena en me tirant par les pieds. Je laissai derrière moi une traînée de sang, d'urine et de salive. Mais cela ne me concernait plus. Ainsi se termine mon histoire. Je fus conscient, mais maintenu dans une immobilisation neurale, durant mon procès. 10 minutes devant des juges en robe noire du Saint-Office. Ils me condamnèrent à mort. Aucun être humain ne souillerait son âme en m'exécutant. Je fus transféré dans un casier à chat de Schrödinger en orbite, autour du monde labyrinthien en quarantaine d'Armagast. Les lois immuables de la physique et la probabilité quantique exécuteraient la sentence. Dès que le procès prit fin, on m'expédia vers le système d'Armagast à bord d'un vaisseau torche robot, à propulsion Hawking et gravité élevée. 2 mois de déficit de temps. Où que fût Aîné, quoi qu'il lui fût arrivé, j'étais en retard de 2 mois pour lui venir en aide quand je me réveillais, juste au moment où il finissait de sceller la coque de ma prison, faite d'énergie vitrifiée. Pendant des jours non comptés, peut-être des mois, je devins fou. Puis pendant d'autres jours non comptés, certainement des mois, je me servis du scripteur qu'on avait mis dans ma minuscule cellule en forme d'œuf pour raconter cette odyssée. Il devait savoir que le scripteur constituerait un châtiment supplémentaire. Qu'en attendant de mourir, j'écrirais mon histoire sur les quelques pages de micro-vélin, recyclées tel le serpent qui dévore sa propre queue, en sachant que personne n'aurait jamais accès au récit gravé dans les circuits de la mémoire. J'ai dit, au début de ce récit, que vous, mon impossible lecteur, étiez en train de le lire pour une mauvaise raison. J'ai dit au début que si vous lisiez ceci pour découvrir la destinée d'Aîné ou la mienne, vous aviez entre les mains le mauvais document. Je n'étais pas avec elle quand le destin d'Aîné s'accomplit. Et le mien est plus proche de son dernier acte que lorsque j'ai commencé à écrire ces mots. Je n'étais pas avec elle. Oh Jésus, Dieu de Moïse, Allah, cher Bouddha, Zeus, Muir, Elvis, Christ, si l'un de vous existe ou a jamais existé, ou retient un lambeau d'existence dans ses mains grises et mortes, je vous en prie, laissez-moi mourir maintenant. Maintenant. Que la particule soit détectée et que le gaz soit relâché. Maintenant. Je n'étais pas avec elle.